Nous avons chanté ce chant bien-aimé qui est tiré du psaume 50. Le psaume 50 nous dit Dieu. Dieu, l'Éternel parle et convoque la terre. Depuis le soleil levant jusqu'au soleil couchant, Dieu resplendit. De Sion, beauté parfaite. De Jérusalem, où Jésus va revenir dans sa gloire, Dieu resplendit. Il vient, notre Dieu. Il vient, notre Dieu. Bien-aimé, je répète, il vient, notre Dieu. Et il ne reste pas dans le silence. Et devant lui est un feu dévorant. Autour de lui, une violente tempête. Alors, il crie vers les cieux en haut et vers la terre pour juger son peuple. Rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice et les cieux publieront sa justice car c'est Dieu qui est juge. Alors il dit à Israël et il dit à nous ce matin, écoute mon peuple et je parlerai. Israël, Akonolinga, chacun de nous ici présent, écoute et je t'avertirai, je suis Dieu ton Dieu. Éternel Dieu de Jacob, tu as mis un fardeau dans mon cœur. Et je pense que tu m'amènes à prêcher de manière forte. Non pas que je veux être dur, mais parce que tu veux que ton peuple soit averti. Tu veux que ton peuple t'entende. Tu veux que ton peuple soit réveillé en vérité, en ce que cela veut dire, en vérité. Alors Père Céleste, daigne nous parler ce matin et nous placer devant toi, nous placer devant ton retour, nous placer devant ton règne. Et nous placer alors devant le sens véritable de notre vie, devant ce que tu nous appelles à être, et alors ce que tu souhaites faire au travers de nous, dans ces temps mauvais, dans ces temps critiques dans lesquels nous sommes. Je te prie, Père Céleste, dans le nom de Yeshua, le Messie d'Israël et le Sauveur des nations, accompagne-nous de ta grâce et que nous puissions tous t'entendre et sortir d'ici d'une manière différente. Averti de manière claire et sain de la vision véritablement prophétique des choses dernières. Parce que tu es proche, parce que tu viens bientôt. Parle-nous, Père Céleste, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Avant de commencer cette prédication avec la parole de Dieu, d'abord j'aimerais, bien évidemment, ne pas m'enfler de vision, mais avec crainte et tremblement, avec un cœur brisé, vous faire part d'une vision que Dieu m'a donnée il y a à peu près 2 mois, juste avant que je quitte la France pour venir ici en Afrique. J'étais un des derniers cultes où j'assistais et il avait été convenu que je sois avec ma famille, assis à l'arrière de la salle, laissant les bien-aimés que Dieu a levés parmi nous en France conduire le culte. Et voilà qu'après la prédication, à l'issue de ce culte, alors que j'avais un enfant sur chaque genou, le Seigneur m'a donné une vision saisissante qui m'a fait trembler. Et j'aimerais vous en parler parce que c'est une vision qui concorde parfaitement avec la parole de Dieu et la parole qui va être annoncée ce matin. Alors, j'ai pris quelques notes pour ne pas perdre trop de temps et pour aller à l'essentiel. J'ai été saisi de cette vision où je voyais un océan, une mer au large, loin des côtes, plus ou moins calme, avec une arche immense, une grande arche. Et à côté de cette arche, il y avait de nombreux bateaux. Et il y avait aussi de nombreuses barques, tous de tailles différentes, tous différents. Et c'était comme un convoi. On avait l'impression que tout le monde naviguait ensemble. Que ce soit ces petites barques, ces petits et grands bateaux, et cette grande arche qui était élevée au-dessus de tous les autres moyens, pourrait-on dire, de transport sur cet océan qui restait et qui demeurait calme. Alors, bien-aimé, soudainement, l'eau a commencé à se soulever. Soudainement, l'eau a commencé à se soulever avec une puissance qui me faisait trembler, qui me faisait frémir. Et j'ai vu toutes les barques être retournées en un instant. Tous les bateaux, même les plus grands, être retournés en un instant. Et les gens étaient jetés dans la mer, les uns après les autres. Et les voilà coulés, submergés par les vagues. Et la mer se déchaînait d'une manière que les eaux remontaient et l'arche de l'Éternel était élevée et surplombait toute chose. Et on ne voyait plus ses barques et ses bateaux qui étaient tout autour. Mais seulement l'arche de Dieu qui demeurait dans cette mer et cette tempête agitée. Alors, Dieu m'a saisi de crainte et j'ai dû me lever avec des larmes pour venir donner cette vision que je crois être un véritable avertissement pour l'Église, pour les Églises et pour les chrétiens. Un avertissement sérieux. Parce que nous pourrions dire amen à cette vision sans nous rendre compte que nous ne sommes pas dans l'arche de Dieu. L'avertissement, bien-aimé, que Dieu veut donner à l'Église, c'est que bien que la mer soit calme, en un instant, soudainement, l'Éternel va venir. Il va déchirer les cieux. Autour de lui sera une violente tempête. Et il viendra par le feu. Et tous ceux qui ne seront pas dans la véritable arche de l'Éternel, malgré qu'ils croient tous qu'ils sont dans le même convoi. Je répète, dans cette vision, c'était si clair. Toutes les barques et tous les bateaux, on avait l'impression qu'ils étaient ensemble. On avait l'impression qu'ils étaient vraiment tous ensemble, qu'ils allaient tous à la même vitesse sur cette mer où l'on pourrait dire paix et sécurité. Mais en un instant, tous ont été retournés. Et plus personne. Les gens avaient beau crier, les gens avaient beau implorer, ils étaient renversés. Ils étaient renversés et seule l'arche était élevée. Voyez-vous, bien-aimés, Dieu parle, je le crois, et je le dis avec un cœur brisé, et non pas me gonflant d'orgueil en me prétendant un prophète de Dieu. Dieu parle à l'Église à travers cette vision. Nombre d'entre nous, nombre d'Églises, croyons marcher avec le Seigneur. Nous avons, et nous pouvons même le dire, l'apparence de la piété, mais nous renions ce qui en fait la véritable force. Mais il y avait des gens dans ces barques qui pouvaient dire amen. Amen, nous avons la vérité. Qui est dans l'arche, bien-aimés? Qui est dans l'arche? Il y a de nombreuses barques et de nombreux bateaux qui naviguent dans la mer de ce monde. Mais le jour vient où elles seront renversées. Alors, après coup, un frère est venu vers moi avec un cœur brisé lui-même. Et il m'a dit, au même moment où tu parlais, j'ai eu la vision. Et c'était un tout jeune frère. Et il ne savait pas même où se trouvait cette parole dans l'évangile. Parole que nous avons pu partager. Vous connaissez cette parole où, sur la mer de Galilée, il y a une tempête. Et Jésus est au calme, en train de dormir, n'est-ce pas? Et ses apôtres le réveillent parce qu'ils ont peur de périr. Alors Jésus se lève et calme la tempête. C'est ce qui s'accomplira pour ceux qui seront en Jésus, dans l'arche de Dieu. Un deuxième passage, vous connaissez, après la multiplication des pains, Jésus reste sur une montagne pour prier à l'écart. Et ses apôtres prennent la barque et soudainement ils croient voir un fantôme. Jésus marchant sur l'eau s'approche de la barque. Alors Pierre va lui dire, c'est bien toi Seigneur que je marche, que je vienne à toi. Et Pierre s'est levé, il a marché sur l'eau et il est allé auprès de Jésus. Et dès qu'il a commencé à considérer les vagues, qu'il a commencé à douter, il s'est mis à couler. Mais il était allé vers Jésus et Jésus lui a pris la main. Et j'ai dit au frère, cette vision, il a eu la vision d'une barque avec une tempête. Et sans voir Jésus, mais sachant que c'était lui, eh bien, une main tendue qui nous appelait à sortir de nos barques. Jésus est l'arche. Jésus est notre arche de l'Alliance. Je n'ai pas le temps ce matin, mais nous pourrions passer plusieurs heures pour faire le parallèle entre cette arche que Noé a été commandé de construire pour se sauver lui-même et sauver sa famille, et Jésus. Il y a tant de choses que nous pourrions dire, mais je n'y attarderai pas maintenant. Mais ce que je veux vous dire, bien-aimés, c'est que nous sommes tous appelés à quitter notre propre barque, à quitter nos propres organisations qui nous rassurent, nos propres bateaux pour aller à Jésus. Quoi que cela nous en coûte, nous devons avoir l'audace, le courage de sortir de nos barques et d'aller vers Jésus. Même si nous avons peur de couler, il nous prendra la main, bien-aimés. Il nous prendra la main et nous serons avec lui. Et nous serons dans cette arche. Et quand bien même la tempête pourra effrayer certains, nous saurons que c'est notre délivrance. Nous serons tenus par la main et nous serons élevés avec Jésus. Comme le Fils de l'homme a été élevé, si nous venons à lui, nous serons élevés avec lui. Comme il est ressuscité le premier d'entre les morts, nous ressusciterons aussi. Et nous irons à sa rencontre dans les airs et nous serons pour toujours avec lui dans l'arche de l'Alliance. L'arche de l'Alliance véritable. Mais aujourd'hui, les fondements sont bafoués. L'Alliance véritable est profanée. L'esprit de la sainteté aussi, bien-aimé. On foule aux pieds sans se rendre compte le sang de l'Alliance et on outrage l'esprit de la sainteté, l'esprit de la grâce. L'Église a une telle légèreté aujourd'hui qu'elle peut croire être dans une barque et dans un bateau, mais le jour qui vient fera paraître l'œuvre de chacun. Et la tempête viendra, comme nous venons de le lire. Une violente tempête autour de lui, et Dieu viendra, et j'y viens dans un instant, pour juger par le feu. C'est une parole forte. Je sais, elle peut même peut-être faire peur, même à certains enfants, à certains jeunes. Mais c'est la réalité. Ne sourions pas. Jésus va revenir dans sa gloire, dans le feu. Et si nous ne sommes pas réellement à lui, dans l'arche de l'Alliance, nous périrons. Et il sera trop tard. Il sera trop tard, comme Ésaü. Une fois qu'il avait méprisé son droit d'aînesse et que Jacob avait été béni, il avait beau pleurer, supplier avec larmes, nous dit l'Épître aux Hébreux. C'était trop tard, c'était fini. Après cette introduction, je veux passer maintenant à la parole de Dieu pour appuyer cette vision par la parole du Seigneur. J'aimerais vous parler ce matin de ces temps dans lesquels nous sommes et qu'est-ce que Dieu nous appelle à être en ces temps. Je lirai Luc, chapitre 17 et verset 26. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Ce qui arriva du temps de Noé, et qu'est-ce qui est arrivé du temps de Noé? Le déluge. Arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Et qu'est-ce qui est arrivé au temps de Noé? La construction d'une arche pour sauver sa famille et tous ceux qui auraient pu y rentrer. Parce que Dieu, comme on le lit dans la Genèse, a laissé 7 jours, n'est-ce pas, jusqu'à ce qu'il ferme lui-même la porte. C'est encore un temps où la porte est ouverte. Jésus nous dit, je suis la porte, n'est-ce pas? Cette arche était faite de bois. Jésus est mort sur le bois de la croix. La porte est ouverte, nous pouvons encore rentrer. Et si nous sommes rentrés, nous sommes appelés à avoir une vocation dans ces choses dernières. Car ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient et buvaient et se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, le déluge vint et il les fit tous périr. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement, ça veut dire de la même manière. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantait, bâtissait, mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. En ce jour-là, j'aimerais vous dire que lorsqu'on étudie un peu l'hébreu, nous voyons chez les prophètes cette expression « dans ces temps-là » et le mot, c'est le mot « moed ». Moed, c'est un temps particulier. Nous, quand nous entendons parler d'un jour, on se dit « voilà, c'est une journée ». Mais dans l'hébreu, il y a un temps particulier, une saison particulière. Un temps favorable ou défavorable. Et bien que l'évangile ait été écrit en grec, c'est ce mot « moed » que nous retrouvons ici. En ce jour-là, et nous sommes dans ces jours-là, nous sommes dans ce temps des choses dernières. Certes, le ciel ne s'est pas encore ouvert et le Dieu de gloire n'est pas encore revenu dans sa gloire. Mais nous sommes dans ces temps de Noé. Soudainement, le déluge est venu, mais Noé avait été divinement averti, comme nous allons le lire. Et avec une crainte respectueuse, il a bâti cette arche pour sauver lui-même et sa famille. Noé était dans ces temps. Nous sommes dans ce temps-là, dans des temps si particuliers. Je le sais pour moi-même. Je ne cesse de le dire à ma femme, à mes enfants même, à tous les missionnaires avec qui j'ai pu vivre toutes ces dernières années. Le Seigneur, lorsqu'il reviendra, nous montrera ô combien nous étions encore endormis, inconscients, incapables de réaliser vraiment sa gloire. Si nous pouvions être saisis un instant par son règne, nous serions tous debout comme un seul homme, prêts à déchirer nos cœurs et nos vêtements, pour laisser Christ régner parfaitement. Ceux qui ne sont pas sauvés, pour laisser Jésus te sauver. Nous ne serions pas assez insensés, raisonnant comme le dit le psaume 73, comme les bêtes, parce que nous pourrions pénétrer les sanctuaires de Dieu et voir le sort final des méchants, et ainsi être puissamment réveillés, Non pas comme on le dit aujourd'hui dans les églises réveillées, mais réveillées de l'esprit de la sainteté qui nous met à part, qui nous rend conscients, qui fait de nous des saints. Kadosh, ça veut dire séparés, mis à part, des véritables enfants de Dieu qui ne sont pas à dormir comme font les autres, mais des enfants de la lumière, qui ne se laisseront ni souiller ni corrompre par rien ni personne, des amis de l'agneau qui suivront Jésus, qui ne se laisseront pas souiller avec les femmes, avec le monde, avec rien ni personne. Parce qu'en communion avec celui qui va venir glorieusement, avec ses poignets percés, bien-aimés. Et je le dis pour moi-même, ô Seigneur, saisis-moi de cette crainte respectueuse que Noé avait pu avoir en lui-même, afin que quand tu reviennes dans ta gloire, je ne puisse pas regretter de ne pas avoir pu vivre en conséquence, et je le crois, avoir pu tout donner, tout sacrifier pour toi. Parfois on n'ose pas parler de l'esprit de sacrifice. Mais regardez tous ces prophètes, regardez tous ces apôtres, regardez tous ces hommes de Dieu qui ont pu façonner la véritable histoire de l'Église. C'est des gens qui ont tout sacrifié, qui avaient cet esprit de sacrifice, de renoncement à eux-mêmes. La mort a pu agir en eux afin que la vie soit manifestée dans les autres. Et notre prince, le prince de la vie, arrive bientôt. Puissions-nous être trouvés dignes de la vocation que nous avons reçue, comme dira l'apôtre. En ce jour-là, que celui qui sera sur le toit et qui aura ses effets dans la maison ne descende pas pour les prendre, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière. Souvenez-vous de la femme de Lot, la femme de Lot qui s'est retournée et qui est devenue une véritable statue de sel en un instant. Et Jésus reprend ses paroles en lui disant que celui qui met la main à la charrue en regardant en arrière est impropre au royaume de Dieu. C'est le royaume de Dieu qui vient. Il est temps de mettre la main à la charrue. Et même quand on met la main à la charrue, à l'époque ça se fait aussi ici en Afrique, je le crois, on labourait le champ avec une charrue, avec des bœufs. Et c'était dur, c'était un métier très difficile. Et dès qu'on se retournait en arrière, qu'est-ce qui se passait? On déviait. C'est le temps, non point de dévier, bien-aimés, mais de rendre nos chemins droits. Nos chemins droits, c'est le temps pour nous-mêmes, mais alors pour les autres, de préparer la venue du Seigneur dans cet esprit de Jean-Baptiste qui ramène tout ce qui est tortueux à la droiture, qui aplanit tout mont pour préparer un peuple bien disposé à l'Éternel qui revient dans sa gloire. Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra la retrouvera. Je vous le dis. En cette nuit-là, vous voyez, en ce jour-là, en cette nuit-là, c'est un Moed, c'est un temps particulier, et nous sommes dans ces temps de la fin. Je vous le dis, en cette nuit-là, de deux personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux femmes qui moudront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre sera laissé. C'est ce qui va se passer. Et si j'ai un fardeau dans mon cœur pour prêcher fort ce matin, c'est que de tout mon être, je prie que nous tous qui sommes ici présents, aucun de nous ne soit laissé, mais que nous puissions tous aller à la rencontre de notre Seigneur pour être pour toujours avec lui. Et je dirais même encore plus, que nous puissions faire fructifier nos talents, que nous puissions rentrer dans la vocation que Dieu nous accorde à tous qui que l'on soit, petits et grands, noirs et blancs. Dieu nous sauve pour le servir, pour qu'il puisse se servir de nous, pour nous rendre conscients des temps dans lesquels nous sommes, tant critiques, tant fâcheux. Bien-aimés, avant ce culte, j'ai simplement lu les informations de cette dernière semaine. Rien que cette dernière semaine, le cannabis a été légalisé aux États-Unis, au Colorado. Et maintenant c'est, si je ne me trompe pas, Washington qui veut commencer au printemps. L'antisémitisme monte en France et il y a eu 60% d'augmentation de juifs qui sont revenus en Israël. C'est une bonne chose, certes, mais l'antisémitisme est un signe d'un diable qui se déchaîne car il sait que ses jours sont comptés. Il y a eu un attentat sanglant en Russie avant les Jeux Olympiques. Il y a un dit pasteur, prophète, influent au Congo qui se dit être le Christ. C'est des choses qui ne sont pas à petite échelle. Il a un site internet et il dit « Est-ce que nous devons en attendre un autre ?» Les mêmes paroles que Jean-Baptiste prenait, comme s'il était le Seigneur. Jésus nous a avertis de toutes ces choses. Ces faux Christ, ces faux prophètes. Cette moralité totalement défaillante. Il y a une séparation qui est en train de se consommer entre Israël et les États-Unis. Dieu a prophétisé ces choses aussi, qu'Israël allait être laissé seul. il y a encore à différents endroits, différents soulèvements, différentes guerres, des tempêtes sur l'île de la Réunion. Rien qu'en une semaine, nous avons toutes ces informations. Vous avez entendu qu'il y a quelques jours, ce qu'il s'est passé, une femme décédée, violée ici à Konolinga. Nous sommes dans des temps de corruption terrible. Et nous nous habituons de vivre avec ça. Nous nous habituons et pourtant, nous avons tous sous les yeux. Et nous avons aussi sous les yeux cette apostasie de l'Église. Jésus a dit, quand je reviendrai sur la terre, trouverai-je la foi? Mais nous avons des barques, nous avons des bateaux qui croient être dans le même convoi. Il faut se réveiller. C'est l'heure de sortir de notre sommeil et d'être tout à Christ, tout à Dieu. Parce qu'il vient bientôt. Et en un instant, on va le voir. Il peut venir. Genèse 6, verset 5 nous dit, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre. Et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. La terre était corrompue devant Dieu. Et ce qui s'est passé au temps de Noé se passe aujourd'hui. La terre est corrompue devant Dieu. J'ai parlé de ce jeune homme que nous avons visité hier, qui a confessé tous ses péchés. Si tous nous pouvions confesser tous nos péchés, ce ne serait pas beau tout ce que l'on verrait. Nous sommes conditionnés par la corruption de ce monde et par la tiédeur de l'Église. Et nous sommes appelés plus que jamais à nous réveiller. C'est par amour que je vous parle comme cela. C'est par amour, c'est par compassion. C'est avec un cœur brisé. C'est en étant sur mes genoux pendant la nuit. Seigneur, parle à ton peuple. Avertis-le toi-même. Et alors fais de nous ta possession. Et fais de nous les Noé d'aujourd'hui. Fais de nous les Daniel d'aujourd'hui. Fais de nous les jeunes d'aujourd'hui. Fais de nous ces gens qui se sauveront pour qu'alors peut-être tu puisses les utiliser pour en sauver d'autres. La terre était corrompue devant Dieu, la terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici elle était corrompue. Et quand Dieu regarde notre terre, elle est corrompue. Méditez un peu à tout le mal qui se passe autour de vous, même le mal qui est attaché à votre cœur, que vous avez pu vivre avant de venir au Seigneur béni, qui vous a permis de crucifier votre vieille nature, votre vieil homme, pour trouver une nouvelle vie, une nouvelle nature, pour vivre par l'esprit et non pas par la chair. Mais voyez encore votre chair, comme elle peut être tentée, corrompue, et le Seigneur voit toutes ces choses, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Genèse 6, verset 17 nous dit, « Et moi, c'est l'Éternel qui parle, et moi je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute chair ayant souffle de vie. Tout ce qui est sur la terre périra. » Bien-aimés, nous devons faire face à cette réalité, et cette réalité du péché, mais cette réalité du retour du Seigneur qui sera soudaine. Ça veut dire en un instant, soudainement, le Seigneur viendra. Matthieu 24, verset 27. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Je suis ici seulement depuis quelques semaines. On m'a dit que pendant la saison des pluies, les éclairs fusent de partout, c'est vrai. Vous voyez comme l'éclair va vite. Qu'est-ce qu'on peut maîtriser d'un éclair? Quand la foudre tombe, est-ce que c'est le temps de prier pour que notre maison soit protégée? C'est trop tard, la foudre est tombée. La mort a frappé parfois. L'avènement du Seigneur viendra comme un éclair, soudainement, en un instant. Et c'est la parole de Jésus, de notre Maître, qui nous le dit. Comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. 2 Pierre, chapitre 3, verset 10, nous dit, « Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. » Il viendra comme un voleur. Quand le voleur est venu, est-ce le temps de prier? Est-ce le temps de protéger sa maison? C'est trop tard, nous sommes déjà volés, nous n'avons plus que nos yeux pour pleurer. Et nous nous disons, ah, j'aurais dû garder ma maison, j'aurais dû renforcer ma maison. Vous êtes la maison de Dieu, c'est le temps de le faire avant qu'il soit trop tard. Et l'apôtre nous dira, en ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Du temps de Noé, Dieu a jugé par l'eau. Dieu vient pour juger par le feu. Ce n'est pas des blagues, ce n'est pas des histoires. Ces réalités, elles viennent. Oh, petits et grands, donnez-vous à Dieu. Donnez-vous à Dieu. Sortez de votre barque, même si vous avez peur de marcher sur l'eau. Allez vers Jésus, prenez-lui la main. Prenez-lui la main. Et si vous avez l'impression de couler, il vous relèvera. Vous serez avec lui. Vous serez dans l'arche de l'alliance. Et quand Dieu fait alliance, Dieu ne déçoit pas. Dieu est fidèle. Si nous sommes infidèles, il demeure le fidèle. Et il le demeurera jusqu'au bout. Si Dieu a jugé le monde par l'eau, Voici qu'il vient juger ce monde par le feu. 2 Pierre 3, verset 5 nous dit, « Ils veulent ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, et que par ces choses le monde d'alors périt, submergé par l'eau, mais par la même parole, par la même parole de Dieu que nous entendons aujourd'hui, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. » Alors, j'aimerais vous adresser cette parole du prophète Malachie. Malachie 3, verset 2 nous dit, « Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui restera debout quand il paraîtra? Car il sera comme le feu du fondeur. » Qui d'entre nous pourra rester debout quand il paraîtra? Oh, je crois que nous tremblerons tous, bien-aimés. Mais si nous sommes à lui, nous serons glorifiés. Comme Jésus nous l'a dit, nous lèverons nos têtes, car nous saurons que c'est notre délivrance qui approche. Et vous voyez, je pourrais vous parler de cette parabole du figuier. Vous connaissez pour la plupart cette parabole du figuier, où Jésus dit que quand les premiers bourgeons viennent, l'été est proche. Eh bien, en Israël, on passe d'une saison à l'autre, soudainement, subitement aussi. Alors Jésus dit, regardez les arbres, regardez ces arbres et préparez-vous que d'un instant à l'autre, l'été arrive. L'été, la chaleur, le jugement de Dieu qui vient par le feu et qui manifestera l'œuvre de chacun. Parce que si, comme nous allons le lire tout à l'heure, si Dieu le permet, nous sommes appelés à échapper à cette colère, bien évidemment, en Jésus-Christ, pour posséder le salut, nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Christ. Et le feu viendra manifester l'œuvre de chacun. Et ce qui aura été fait en Christ subsistera, le reste sera brûlé. Et ces choses nous accompagneront pour l'éternité. Et c'est maintenant le jour du salut, et c'est maintenant le jour où nous déterminons ce qui est notre éternité, ce que sont les choses éternelles. Qui donc pourra soutenir le jour de cette venue? Car le Seigneur ne tarde pas, comme le dit 2 Pierre 3, verset 9, dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Vous voyez, bien-aimés, il y a un moment donné où la patience de Dieu atteindra ses limites. Et je crois que le comble de la mesure des nations est arrivé. Si Israël est revenu sur sa terre, c'est parce que le péché des nations est arrivé à son comble. Je n'ai pas le temps d'appuyer tout cela par la parole de Dieu, mais l'iniquité, le mystère de l'iniquité qui agissait déjà il y a 2000 ans, a comblé la mesure. Dans Genèse 15, vous pouvez lire que Dieu a dit à Abraham, qui est devenu Abraham, faisant alliance avec lui au travers de ses animaux, qu'il resterait pendant 400 ans dans un pays qui ne sera pas le sien, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore arrivée à son comble. Mais alors il délivrera son peuple et il abattra de grands jugements. Et c'est ce qu'il a fait sur l'Égypte et c'est ce qu'il a fait sur les Amoréens, ce pays de Canaan qui est devenu Eretz Israël. Jésus reprend exactement ces paroles dans Luc 21 en disant « Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. » Et il reprend exactement quand on prend en hébreu, ça veut dire « jusqu'à ce que les nations aient comblé la mesure du péché. » Donc si Jérusalem en 67 a été libérée, c'est que pour Dieu, les nations ont comblé la mesure du péché. Et d'ailleurs en mai 68, nous avons eu cette révolution du péché comme un saut que le Seigneur voit que le comble du péché est là sur notre terre. Nous avons beaucoup de chance, parce que Dieu fait encore miséricorde. Dieu est encore patient pour que nous arrivions à la repentance. Mais rapidement, cela va finir. Rapidement, cela va se terminer. Et quand vous fixez vos yeux sur le Moyen-Orient, toutes les prophéties s'accomplissent. Jour après jour, elles grandissent dans leur, avec finesse, avec exactitude. Le Seigneur peut revenir d'un instant à l'autre. Alors je pose la question maintenant. Qu'allons-nous faire? Qu'allons-nous être dans ces temps? Qu'allons-nous faire? Qu'allons-nous être dans ces temps? Et dans quel esprit allons-nous nous mouvoir? Nous lisons dans Genèse 6, versets 8 à 9. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Et qu'est-ce qu'a fait Noé alors? Noé a construit une arche. Je crois que nous avons le résumé de ce que nous avons à vivre. Nous avons à trouver grâce auprès de Dieu. pour être des justes dans notre génération. Juste parce que justifiés par Jésus-Christ. Parce que justifiés dans la foi en Christ, qui nous donne sa justice, sa nature. Parce que par nous-mêmes, nous ne pouvons être de ces justes. L'Épître aux Hébreux nous dit, Noé lui-même a été sauvé par la foi. Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu et Noé a construit cette arche. Nous sommes appelés à nous laisser sauver de tout. Pas simplement sauver par une croyance que Jésus est mort pour nous, mais par une foi en la puissance de Dieu, qui a fait que Dieu est venu comme un homme, Dieu qu'il était, crucifié à la croix, qu'il a été ressuscité le troisième jour, qu'il est monté dans sa gloire, et qu'il répand son esprit, et qu'il suscite la foi en nous, pour être de ces sauvés, non pas par une simple croyance, mais par la foi en la puissance de Dieu, qui a ressuscité Jésus, et qui peut nous ressusciter, qui peut nous donner une nouvelle nature, et qui peut donc nous sauver de tout. Nous sommes appelés à être sauvés de quoi? Sauvés de nous-mêmes, sauvés de cette nature qui nous pousse tout le temps à la mort. Oui, nous pouvons être libres et libérés. L'apôtre Jean dit que celui qui pêche est du diable, est un enfant du diable. Et parfois nous entendons dans des églises, merci, tu nous purifies de nos péchés. Chaque jour, chaque semaine, nous avons péché, mais nous sommes dans la joie. Non, bien-aimés, nous devons avoir ce cœur, bien sûr. Quand nous arrivons à Jésus, qui d'entre nous pourrait dire qu'il n'a pas péché? Nous serions tous trouvés menteurs, et béni soit Dieu pour cet avocat qui va plaider pour nous, car nous sommes tous des pécheurs. Nous serions des menteurs si nous disions autre chose. Mais nous devons avoir l'espérance, sinon c'est que nous minimisons Dieu. Nous faisons de la puissance de Dieu quelque chose de petit, quelque chose qui est plus faible que ce monde. Or notre foi triomphe du monde, nous dit l'apôtre Jean. Donc nous devons avoir d'abord avant tout ce réveil spirituel pour être des justes en notre temps, un temps comme celui de Noé, un temps mauvais, un temps corrompu, pour ne laisser rien nous corrompre, mais d'avoir, par cette semence qui a été mise en nous, la victoire sur toutes choses. Et c'est possible de vivre en homme authentiquement nouveau, d'être en communion avec Dieu et de ne point pécher. Ou alors si je fais quelque chose qui n'est pas juste, le Saint-Esprit me le dit tout de suite et je demande pardon. On doit pouvoir se coucher, se lever, prier ensemble avec un cœur pur. Sans quoi, comment nous pourrons être un seul homme nouveau? Et comment pourrons-nous construire l'arche de Dieu? Alors, l'esprit dans lequel nous sommes appelés à marcher et à construire, car j'y viens, notre appel est un appel à construire l'arche de Dieu. L'arche de Dieu, c'est Jésus lui-même, c'est son corps. Nous sommes appelés à permettre que soit relevé le corps de Jésus. Daniel le prophète faisait cette prière dans Daniel 9, verset 17. « Maintenant donc, ô notre Dieu, écoute la prière et les supplications de ton serviteur. Et pour l'amour du Seigneur, fais briller ta face sur ton sanctuaire dévasté. » Nous sommes appelés être des Daniel, qui voient non pas par esprit de jugement, mais avec supplication, avec larmes, que le sanctuaire de Dieu, le corps de Christ est dévasté. Nous sommes appelés à bâtir l'arche de Dieu, qui est son corps vivant, dont nous sommes les matériaux vivants, et où nous avons tous notre place. Nous sommes appelés à restaurer le corps de Christ, préparer à Dieu un peuple bien disposé, un corps vivant et véritable, une épouse pure et sans tache et irréprochable. Croyez-vous que Dieu va marier une épouse qui est encore soumise à la prostitution de ce monde, à la prostitution de sa chair, à la prostitution du diable? Non, Dieu est saint. Il est saint, notre Dieu. Alors, l'apôtre Pierre nous dit que Noé était un prédicateur de justice. Et comment Noé a prêché? Noé, il a prêché par sa vie. Noé, il a prêché par ce qu'il était. Nous sommes appelés à être une prédication. Et avant de vouloir parler, avant de vouloir dire, nous sommes appelés à être l'ouvrage de Dieu, à être circoncis, non pas de la main de l'homme, mais de celle de Dieu. Nous sommes appelés à être lumière. Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. Il n'a pas dit, parlez de la lumière. Il a dit, vous êtes la lumière du monde. On a appelé à être prédicateur de la justice. Et pour cela, il faut qu'on puisse laisser notre vie et recevoir celle de Jésus-Christ. Mais soyez sûrs que quand nous avons la vie de Dieu, nous avons toutes choses, nous avons toute la plénitude. Parfois des jeunes ont peut-être certaines appréhensions à se donner à Christ parce qu'ils se disent « Oh, je vais lâcher ceci, je vais lâcher cela, je ne pourrai plus être copain avec un tel ou avec un tel. » Mais c'est mépriser Dieu de penser comme ça. C'est ne pas se rendre compte qu'il est l'Éternel, il est toute chose. Il est toute chose, bien-aimé. C'est lui qui a tout créé. On voudrait jouir du péché un instant et quelques minutes après, nous nous sentons mal alors que quand nous avons Dieu, nous avons la vie pour l'éternité. La véritable jouissance éternelle, la vraie joie du ciel. Alors nous sommes appelés à être dans cet esprit de Noé, à être des prédicateurs par Christ en nous avant de vouloir faire des choses. Mais alors si nous sommes, Dieu pourra se servir de nous. Et nous servirons comme Noé a pu servir, en nous mettant à l'œuvre. En nous mettant à l'œuvre. Parce que nous pouvons être, mais nous sommes appelés à pratiquer. Nous sommes appelés à bâtir ensemble. Nous ne sommes pas appelés seulement à prier. Bien sûr que tout est conditionné par la prière. Rien ne peut se faire que par la prière. Mais alors il nous faut agir. Alors il nous faut agir, comme Noé a pu agir. Genèse 6, verset 22, c'est ce que fit Noé. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Nous sommes appelés à pratiquer. Je n'ai pas le temps de la lire, parce que je ne voudrais pas faire une prédication qui soit beaucoup trop longue pour certains. Mais vous lirez vous-même, je l'ai marqué sur les feuilles. Matthieu 7, verset 21 à 27. Dieu nous parle de ces temps-là, où il y en a qui prophétiseront, qui feront des miracles, des guérisons, qui libéreront les captifs en son nom. Mais il leur dira, allez-vous-en, je ne vous connais pas, vous qui êtes des ouvriers d'iniquité. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas fait la volonté du Père. Nous sommes plus que jamais à faire la volonté du Père. Et après que Jésus ait dit ça, il prend cette image que toutes les mamans qui enseignent leurs enfants connaissent. Tu dois bâtir ta maison sur le roc. Et ça veut dire mettre la parole de Dieu en pratique. Parce que si tu la bâtis sur le sable, ta maison va tomber. Mais vous savez, quand Jésus est en train de dire ça, il parle de son retour. Et ça, on l'oublie souvent. Quand il parle, la tempête est venue et cette maison est tombée. C'est la tempête de Noé. C'est ce dont nous sommes en train de nous entretenir. Nous sommes appelés à être en Christ, mais à pratiquer les œuvres de Christ, à rentrer dans les œuvres qu'il a préparées pour nous. Nous sommes sauvés par la foi seule, sur la base du sacrifice de Jésus-Christ. Que personne dise le contraire, parce que quand vous percevez à quel point Dieu est saint, qui pourrait prétendre se sauver par ses œuvres? C'est impossible. Seul par notre foi bénie, dans le saint béni soit-il qui est venu mourir à la croix, nous pourrons être sauvés. Mais nous sommes sauvés pour, par son esprit, rentrer dans les œuvres qu'il a faites et préparées pour nous. Et à pratiquer la parole de Dieu. Et à bâtir son église. À œuvrer dans ces choses dernières. À ne pas rester chacun chez nous, comme nous allons pouvoir le lire. Mais à ce que chacun donne toutes choses. Et je vous le lis déjà pour aller à l'essentiel. Agée, chapitre 1, verset 3. La parole fut adressée par Agée le prophète en ces mots. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées quand cette maison est détruite? Je vous pose la question. Il parlait du temple, du second temple qui devait être construit. Agée avec Zacharie étaient ces prophètes qui encourageaient le peuple qui revenait de Babylone. Et Dieu nous dit, sortez de Babylone, ô mon peuple! Sortez de Babylone, ô mon peuple! Et ces gens qui sont sortis de Babylone, ils sortaient de Babylone pour bâtir le temple de Dieu, où Jésus allait venir. Parce que le prophète Malachie avait dit, et soudain rentrera dans son temple le messager que vous cherchez, le messager de l'Alliance, Jésus. Alors ils ont rebâti ce temple. Et Agée leur disait, est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées quand cette maison est détruite? Le corps du Christ, bien-aimé, est détruit si nous pouvons être dans le cœur de Dieu pour voir comment Dieu voit, pour entendre comment Dieu entend. Est-ce le temps donc pour nous d'habiter nos demeures lambrissées? Non, c'est le temps de passer à l'action, c'est le temps de monter à la montagne de l'Éternel. Et comme dira ce prophète Agée, et je vous invite à lire le livre d'Agée, il est très rapidement lu, c'est comme une prophétie pour nous, une prophétie pour notre temps. Allez, et travaillez encore, et ma gloire sera encore plus grande que la gloire de la maison première. Et s'il l'a dit pour cette maison deuxième, c'est parce que Jésus est venu, et il nous le dit aujourd'hui encore plus fort parce que Jésus revient, et sa gloire sera plus manifeste. Est plus grande que jamais. C'est le temps de travailler. Allons-nous être dans cet esprit de Josué qui disait « Moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. » C'est le temps de le servir, bien-aimé. C'est le temps de se lever. C'est le temps de se réunir, de se rassembler pour être en Christ et pour œuvrer en Christ, pour bâtir en Christ, pour bâtir cet arche de l'Alliance. Genèse 6, verset 22, c'est ce que fit Noé. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. J'aimerais terminer en vous donnant trois points rapidement. Nous sommes appelés à construire cette arche à trois niveaux, je le crois. Et trois niveaux importants. Le premier niveau, c'est nous-mêmes. On ne veut pas commencer à aider les autres pour être des donneurs de leçons. Il faut que nous soyons un sauvé, de convertis véritablement. Parce que nous pouvons avoir la joie du salut sans vivre une véritable conversion. Une conversion, ça veut dire que ma nature est cloué à la croix. Je renonce à moi-même, je perds ma vie pour recevoir la vie de Jésus. Sinon, si je reste en moi-même et que je crois que le Seigneur est mort pour mes péchés et que je continue à être esclave de ce qui a triomphé en moi, à savoir le monde, la chair et le diable, je pense que je risque d'avoir des surprises face à la parole du Maître qui me dit « Celui qui n'a pas perdu sa vie ne la retrouvera pas ». Celui qui ne veut pas se renier lui-même ne peut pas être mon disciple. Et pourtant, il avait demandé à ses apôtres d'aller vers la création tout entière pour rappeler tout ce qu'il avait dit et d'en faire des disciples. Des disciples, c'est les disciples qui sont baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le disciple, c'est celui qui renonce à sa vie pour recevoir celle de Jésus. C'est celui qui est sauvé par sa foi, mais c'est aussi celui qui voit cet accomplissement qui a été fait à la croix s'accomplir en lui pour pouvoir ne pas être devant des nations qui leur diront « Mais où est donc leur Dieu ?» Mais qu'ils puissent voir en nous briller Jésus-Christ, qu'ils puissent voir un vrai peuple uni. La première chose, c'est nous-mêmes. La deuxième chose, c'est nos familles. Et la troisième chose, c'est le corps de Christ. Alors très rapidement, je vais vous lire quelques paroles. Et je crois que Dieu a déjà secoué quelque chose en nous, parlé à nos cœurs en ce matin. Donc je ne voudrais pas en rajouter. Je vous lirai Ézéchiel chapitre 14 et les versets 12. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, si un pays péchait contre moi en se livrant à l'infidélité. Et c'est ce qui se passe. Pas qu'à Kololinga et au Cameroun. Toutes les nations de la terre comblent la mesure du péché. Le mystère de l'iniquité atteint son comble. Tout ce qu'ont prophétisé les saints apôtres de Dieu est en train de se passer sous nos yeux. Enfants rebelles à leurs parents, fanfarons, amis de l'argent, vous pouvez lire dans Romains, dans Timothée. Toutes ces prophéties s'accomplissent, on ne supporte plus la saine doctrine et on veut se faire entendre des choses agréables. Et on se tourne vers les fables. On est dans un monde corrompu et infidèle. Alors si un pays péchait contre moi en se livrant à l'infidélité, et si j'étendais ma main sur lui, et la main de Dieu va s'étendre soudainement bientôt sur ce monde, si j'en exterminais les hommes et les bêtes, et qu'il y ait au milieu de lui ces trois hommes, Noé, Daniel et Job, ils sauveraient leur âme par leur justice, dit le Seigneur l'Éternel. Ces trois hommes, bien-aimés, que sont Noé, Daniel et Job, c'était des gens différents. C'était des gens pas comme les autres. Et c'est pour ça qu'on en parle encore aujourd'hui. Et c'est pour ça que Dieu nous dit qu'ils se sauvaient par leur justice, bien sûr. Ils touchaient déjà la grâce de Christ qui était en eux. Mais nous avons cette grâce. Et nous avons, comme nous le dit l'apôtre Jean, reçu grâce sur grâce de sa plénitude. Donc nous sommes inexcusables. Nous sommes appelés à être des Noé, à être des Daniel et des Job. Et nous sommes appelés à craindre. Pourquoi ? Parce qu'écoutez ce que le Seigneur continue par dire. Verset 15. Si je faisais parcourir le pays par des bêtes féroces qui le dépeupleraient, s'il devenait un désert où personne ne passerait à cause de ces bêtes, et qu'il y ait au milieu de lui ces trois hommes, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Ils ne sauveraient ni fils ni fille. Eux seuls seraient sauvés et le pays deviendrait désert. Et quand vous lisez les versets 19 et 20, deux fois de plus le Seigneur répète cela, pour être sûr que nous avons bien compris. Et il répète les mêmes phrases que je vais vous lire. « Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel, ils ne sauveraient ni fils ni fille, mais ils sauveraient leur âme par leur justice. » Avant de vouloir sauver notre famille, avant de vouloir être agent de salut, il faut qu'on soit clair, nous, personnellement, face à Dieu. On a besoin d'un face-à-face avec Dieu. Je crois, et je vais y venir à la famille, qu'il y a de l'espérance pour que nos familles soient sauvées. On vient de voir un témoignage de Dieu qui peut agir en deux enfants d'une famille qui étaient là parmi nous, en une semaine. Donc Dieu peut sauver encore nos enfants, Dieu peut sauver encore nos fils. Mais Dieu nous avertit, attention, s'il n'y a pas de Daniel, de Noé et de Job, ne croyez pas au salut facile qu'on vous prêche aujourd'hui. Parce que nous sommes dans ces temps critiques. Lisez Luc chapitre 13 qui nous dit « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car beaucoup le voudront mais ne le pourront pas. » Ils ne le pourront pas. Nous sommes dans ces temps critiques. Et cette parole devrait nous faire frémir, non pas pour avoir peur, mais pour être tout à Dieu, pour donner tout à Dieu. Est-ce qu'on peut dire, chacun dans nos cœurs, « Oui, je veux être un Daniel. » Oui, je veux être un Noé. Oui, je veux être un Job. Et c'est ça notre vocation. Sinon, on lit la Bible comme une fable. On se gargarise de fables. Ou parfois, il y a des personnes qui lisent des grands hommes de Dieu qui ont fait des choses extraordinaires. Et ils savent tout de ces hommes de Dieu, mais ils ne comprennent pas que Dieu les appelle à être ces hommes de Dieu. Nous sommes à la fin des temps. Si Dieu ne fait pas avec nous, il fera avec qui? Avec des faux prophètes? Avec des faux Christ? Puisse le vrai Christ de Dieu, la vraie justice de Dieu qui s'obtient par la foi en la puissance de Dieu, soit répandue sur nous et que nous puissions nous sanctifier véritablement, sans quoi nous ne verrons pas le Seigneur. Mais si nous nous sanctifions, et comme dit la fin de l'Apocalypse, que celui qui se sanctifie encore, comme Noé, comme Daniel, comme Job, nous verrons, comme Daniel a vu, l'armée des cieux travailler avec nous. Nous verrons, comme Job l'a vu, Dieu a mis une restitution puissante à la face de tous ceux qui pourraient nous railler et nous critiquer. Nous verrons comme Noé cette colombe venir avec une branche d'olivier, symbole de la paix, symbole de l'huile, symbole du Mashiach. Jésus est le Messie, ça veut dire le oint. Quand la colombe de la paix après le déluge vient, c'est le signe d'un temps de paix. Quand la branche d'olivier vient, c'est le signe de l'onction du règne messianique. Le règne vient, ô combien ça devrait nous pousser à tout donner. Nous allons rentrer dans la joie de notre maître. Nous allons rentrer dans un règne de paix. Dieu va faire cesser la guerre. Mais à nous d'être des violents maintenant. Des violents pour nous emparer du royaume. Pas des violents de nos mains, bien évidemment. Mais par le Saint-Esprit. Le royaume des cieux souffre violence. Et ce sont les violents qui s'en emparent. À nous d'être des David. David le combattant. David le guerrier. Alors, Dieu lui a dit, c'est ton fils qui construira le temple, Shlomo. Dans le mot hébreu, il y a là le symbole de la paix qui établit le temple, qui construit le temple avec un règne de paix, un règne de sagesse. Et tout le monde, même la reine de Saba, vient pour l'écouter. C'est ce qui va se passer dans le règne de Dieu. Jésus règnera en gloire et en majesté à Jérusalem et tous viendront l'adorer. À nous d'être des David maintenant, à nous de libérer le peuple, à nous de libérer cette terre, à nous de construire cette arche. Alors nous rentrerons dans cette paix messianique que Dieu viendra apporter. Et cela commence parce que l'on soit seul, face à face, chacun pour notre part. Comme vous lisez dans le livre de Zacharie, quand Israël, au dernier jour, se tournera vers son Dieu, chaque famille séparément se lamentera. Chaque famille séparément se lamentera. À nous d'être seul à seul, face à face, devant Dieu. Ne pas regarder notre femme, ne pas regarder notre mari, ne pas regarder notre voisin, mais cela seul devant Dieu, pour devenir authentiquement des Noé, des Job et des Daniel. Alors on n'aura rien à craindre, et Dieu, je le crois, il y a encore de l'espérance. Dieu pourra permettre qu'alors nous passions à l'étape suivante, de bâtir cette arche pour nos familles. Pour nos familles. Et j'aimerais vous dire quelque chose. La famille, le diable aujourd'hui, il n'essaie de faire qu'une chose. C'est de la diviser, de l'attaquer. Parce que la famille, c'est la base de l'Église. On a parfois un homme dans une église, une femme dans une autre. Non, bien aimé. L'Église de Jésus-Christ, d'abord, c'est pas un bâtiment. C'est le corps vivant de Jésus, n'est-ce pas? Et il est formé de famille. Il est formé aussi de célibataires qui ne devraient pas tout le temps chercher à se marier. Lisez 1 Corinthiens 7, vous verrez ce que dit Paul. Et j'ose le dire dans votre culture, on veut absolument se marier pour paraître bien, pour nos familles, pour les autres. Mais qui veut être comme Paul? Si vous cherchez encore à plaire aux hommes, vous ne pourrez jamais être des serviteurs de Christ. Galates 1, verset 10. Si je cherche encore à plaire aux hommes, je ne suis pas un serviteur de Christ. Et Dieu appelle des personnes. Et Dieu l'en dit même après ces personnes, qui comme Jésus l'a dit, seront des eunuques pour le royaume. Qui pourront avoir toute la latitude de servir le Seigneur. Parce que quand on a une famille, eh bien, nous avons un grand travail à faire. Mais j'aimerais dire à ces familles qui sont là, que ce travail à faire, il ne faut pas le négliger. Parce que le corps de Christ est composé de ses eunuques du Seigneur et de ses familles du Seigneur. de ses familles dans le Seigneur. Hébreux 11, verset 7 nous dit, c'est par la foi que Noé, divinement averti de ces choses qu'on ne voyait pas encore. Est-ce que Dieu peut nous avertir ce matin de ces choses qu'on ne voit pas encore? Noé a été averti. J'ai commencé avec ce psaume 50. Dieu nous avertit. Écoute mon peuple et je parlerai. Écoute mon peuple et je t'avertirai. Puisse Dieu nous avertir de ces choses qu'on ne voit pas encore. Mais si nous pouvons voir par la foi ces choses, alors saisis d'une crainte respectueuse, et nous serons saisis de la crainte respectueuse de Dieu. Il construisit une arche. La parole nous dit quoi? Pour sauver sa famille. Il construisit une arche pour sauver sa famille. J'invite tous les parents parmi nous à avoir de la crainte. Il y a quelques jours, j'étais en pleurs devant une famille en leur disant, réveillez-vous, est-ce que votre fils est vraiment un Christ? Parfois, vous savez, on se dit, il va grandir et il choisira. C'est le diable qui vous dit ça. C'est le diable qui vous dit ça. Non, Dieu nous appelle à corriger et à instruire nos enfants, à planter Christ en eux. Dès tout petit, ils peuvent recevoir l'Esprit de Dieu. C'est une âme, nos enfants. Ils ont un esprit. Dès tout petit, ils peuvent se repentir. Dès tout petit, ils peuvent être convaincus de péché. Dès tout petit, ils peuvent naître de nouveau. Dès tout petit, ils peuvent aimer la parole. Dès tout petit, ils peuvent aimer la prière. Dès tout petit, ils peuvent être utilisés par Dieu. Et surtout, être sauvés. Moi, je ne serai pas tranquille jusqu'à ce que j'aie la certitude que chacun de mes enfants soit sauvé. Et je le sais chaque jour que je les vois. Est-ce que ça va bien du bien de Dieu? En vérité, on sent quand un enfant est dans le Seigneur ou pas. Le petit Yoël qui a 5 ans, je sais exactement le jour où l'Esprit de Dieu est venu dans sa vie. Ma deuxième fille, Hannah, qui a 3 ans et demi, je sais exactement le jour où le Saint-Esprit est venu sur elle. Et même si ça peut vous faire bizarre, un enfant qui vient d'avoir 2 ans, l'Esprit est venu en lui. Et je le discerne clairement. Priez pour vos enfants. Soyez sûrs qu'ils sont au Seigneur. Soyez certains qu'ils sont à l'Éternel. Écoutez, Jean le Baptiste, il a reçu le Saint-Esprit quand il était dans le sein de sa mère. C'est vrai ou pas? D'ailleurs, il y a des traductions qui commencent à dire le contraire. Ces nouvelles traductions, que c'était à sa naissance. Et voilà que là, il y a l'esprit antichrist qui veut justifier l'avortement. Non, dès le sein de sa mère, quand il était encore dans le ventre de sa mère, il était rempli du Saint-Esprit. Alors chérissez vos enfants, ayez cette crainte qu'ils puissent partir sans vous. N'allez pas trop vite à dire qu'ils ne comprennent pas, parce que moi je vous dis que dès petits les enfants, quand on a l'Esprit de Dieu, la crainte de Dieu, Christ en nous, et qu'on enseigne nos enfants tous les jours, ils comprennent beaucoup plus que ce que vous pouvez croire. Beaucoup, beaucoup plus. Ils ont une sensibilité spirituelle bien plus grande que ce que l'on pourrait croire. Alors ne soyons pas pris par l'humanisme. Oh, nos enfants, ils sont mignons, certes. Mais ils sont pécheurs et ils ont besoin de se repentir et de recevoir la vie de Dieu. Et Dieu peut le faire et Dieu le fait, bien-aimé. Alors comme Noé, soyons, si nous sommes divinement avertis que le Seigneur revient bientôt et que soudainement il peut revenir en tout temps, commençons avant de parler de l'Église, commençons par nous-mêmes et alors par nos femmes, nos enfants, nos couples, nos familles, pour que Dieu y rentre et que Dieu s'établisse. Alors nous pourrons construire l'arche du Seigneur. Genèse 6, verset 18, et j'arrive au bout. « Mais j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, et ta femme, et les femmes de tes fils avec toi. » Genèse 7, verset 1, « L'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. » Amen. Puissiez-vous, père de famille, vous qui êtes les chefs de famille, ne pas vous laisser contrôler par la vie de tous les jours, mais être contrôleur par l'Esprit de Dieu. Ayez un culte, au moins un culte, tous les matins. Peut-être que je vais vous choquer, mais moi, tous les matins, nous avons un culte. Et tous les soirs, nous avons un culte. Et nous prions chaque fois à table, pas simplement « Merci Seigneur », mais nous prions véritablement. Et nous enseignons nos enfants. Et vous savez, moi je prêche que même avec ça, nous pouvons être dans la religion. Ça peut devenir quelque chose de religieux, vous comprenez, d'automatique. Père, mère, je vous le dis avec larmes, aimez vos enfants, chérissez-les, ne dormez pas tranquille tant que vous ne voyez pas Christ en eux. Et Christ peut être en eux tous les jours. C'est vous qui en êtes les responsables. Vous avez une grande responsabilité. Dieu vous demandera des comptes pour vos enfants. Alors puissiez-vous vous réunir au moins une fois, deux fois par jour. Si vous n'êtes pas sûr que l'Esprit de Dieu est venu sur vos enfants, imposez-leur les mains. Vous verrez Dieu vous répondre. Vous verrez Dieu vous répondre. Imposez-leur les mains. Demandez à Dieu de les visiter. Arrêtons de voir les enfants comme des chansonnettes. C'est pour ça que c'est bon ici, tous les enfants sont là. Des fois dans certaines églises, on prend les enfants pour ce qu'on appelle l'école du dimanche. Moi je crois que les enfants ont besoin de sentir la puissance de Dieu, sentir la parole de Dieu, pour que leur cœur soit touché et qu'ils soient bâtis dans l'esprit de sainteté. Oh, puissiez-vous prendre votre responsabilité à cœur, car c'est tout ce que le diable ne veut pas. On ne pourra pas être une arche bien solide ensemble si nous ne sommes pas d'abord des familles bien solides ensemble. 1 Timothée 3, verset 5 nous dit « Si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu ?» Je répète, si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu ? Ô parents, dirigez votre maison par l'Esprit de Dieu, par le Seigneur Jésus-Christ. Faites de votre famille, faites de votre maison une famille et une maison qui rentre dans l'arche de Dieu. Alors, et c'est mon dernier point, ensemble, nous pourrons bâtir le corps. Pourquoi ? Parce que comme on l'a dit pour nous personnellement, nous ne serons pas des donneurs de leçons, mais nous serons revêtus de la justice de Christ. Vous êtes la lumière du monde, personnellement, mais nous sommes appelés à être la lumière du monde en tant que famille. Avant de témoigner, devenons un témoignage véritable. Et ce témoignage véritable, il commence par nous-mêmes et par nos familles. Alors il sera pour le corps, et le corps, si Dieu le veut, pourra l'être pour le monde. Mais si on veut changer l'ordre de ces choses, si on veut croire servir Dieu dans l'Église, alors que nous ne sommes pas des Noé, des Daniel et des Job, alors que notre famille n'a pas le témoignage de Christ, nous irons trop vite. Acceptons ce travail de Dieu. Et si nous l'acceptons et qu'il se fait en nous, alors je peux vous dire que nous serons des hommes et des femmes fortes, inébranlables en Christ, perfectionnés par Dieu, comme dit 1 Pierre chapitre 5. Après que vous ayez un peu souffert, c'est Dieu lui-même qui vous perfectionnera. Et il ajoute ses qualificatifs et finit par dire qu'il vous rendra inébranlable à lui sur la gloire pour les siècles des siècles. Et nous serons inébranlables en tant que famille. Alors notre corps sera aussi un corps inébranlable. Et nous pourrons ensemble construire cette arche comme Noé. Et nous ne ferons pas rentrer des animaux, bien-aimés, mais nous ferons rentrer des hommes et des femmes. Et le plus grand nombre qui peut être encore sauvé, les arrachant de ce feu qui vient. Amen. Genèse 6, verset 20, « Ils viendront vers toi pour que tu leur conserves la vie. » Oui, des âmes viendront vers nous si nous sommes ce corps de Christ véritable pour que leur vie soit conservée. C'est une question de vie ou de mort. Une question de vie ou de mort pour nous, pour nos familles, pour l'Église et pour le monde. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. J'en ai terminé pour ce matin. Puissions-nous maintenant nous placer devant Dieu et lui dire qu'est-ce qu'on va faire de notre vie ? Qu'est-ce qu'on va faire de notre vie ? Qu'est-ce qu'on va faire dans les temps dans lesquels nous sommes ? Qu'est-ce qu'on va faire de cette parole que l'on a entendue ce matin ? Qu'allons-nous faire ? Parce que vous savez ce que nous dit, et je conclue par ça, ce chapitre 7, verset 7, c'est facile à retenir. « Et Noé entra dans l'arche avec ses fils, sa femme et la femme de ses fils, pour échapper aux eaux du déluge. » Et verset 16, « L'Éternel ferma la porte sur lui. » Et cette porte va soudainement se fermer. Thessaloniciens 5, verset 2, « Alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte. » Et ils n'échapperont point. Mais nous sommes appelés à échapper à cela. Amen. Alors plaçons-nous devant le Dieu qui revient bientôt. Plaçons-nous devant ce qu'est notre vocation dans ces choses dernières. Construire l'arche de Dieu. Et si la mer paraît calme, si la mer paraît calme, soyons prêts à ce que la mer se soulève en un instant et travaillons avant qu'il ne soit trop tard. Avant que le soudain de Dieu arrive sur nous. Ne soyons pas dans l'illusion, dans le sommeil comme les autres, mais réveillons-nous et bâtissons. Bâtissons l'arche de l'Éternel. Bâtissons la maison de Dieu. Ma prière, c'est que Dieu lève parmi nous, c'est Noé, Dieu laisse parmi nous ses Job. Dieu lève parmi nous ses Daniel et fasse de nous une arche sainte où tout le monde pourra venir pour trouver la vie et la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse dans ces choses et que cette parole puisse travailler et travailler nos cœurs pour que nous puissions permettre à Dieu d'accomplir sa parole dans ces temps fâchés dans lesquels nous sommes, mais dans lesquels il y a encore de l'espoir, de l'espérance et dans lesquels nous sommes appelés à persévérer jusqu'à la fin. Que le nom de Jésus soit glorifié. Amen. Amen.